finale de Ligue des Champions. S'il est encore décisif face à Milan, il pourra aussi devenir un candidat sérieux au Ballon d'Or.
Ainsi se referme ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir écouté. RFI à Paris.
Radio G 101.5 FM. Walking in the midnight
sun. Podcast, émission, animation, c'est parti. Le 101.5 ouvre son antenne.
Vous souhaitez devenir animateur ou animatrice radio? C'est à votre tour de prendre le micro en main.
À partir de septembre 2025, matin et soir, partagez votre voix, vos idées et vos mots à tout Angers.
Vous êtes fan de reggae? Vous aimez parler des nouveautés du coin? Des douceurs angevines?
Ce qui vous tient à cœur nous intéresse. Alors allez-y, proposez votre propre émission de radio, lancez-vous dans l'animation radio.
En direct de votre radio angevine, c'est désormais possible en rejoignant Radio G.
Rendez-vous sur radio-g.fr pour remplir le formulaire d'inscription.
44 ans, ça se fête, et ça se fête avec vous.
Bon courage et à bientôt
sur le 101.5 FM.
Radio G, savourez nos différences.
Avez-vous le talent de la chanson?
Vous aimez chanter en français?
Rejoignez le concours de la chanson française et tentez de représenter Angers au festival de Toruń en Pologne.
Préparez 5 chansons et envoyez-nous vos enregistrements avant le mercredi 7 mai.
Et venez briller sur scène le 14 mai à la Ruche de Belleveille.
C'est gratuit et les seules conditions, être majeur et disponible du 11 au 15 juillet.
Info et inscription sur angersjumelage@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux angersjumelage. Faites entendre votre voix et vivez une expérience musicale inoubliable.
Hôtel de ville d'Angers, au guichet des titres d'identité.
Mais c'est pas possible. Donc là, j'ai mes photos et vous êtes en train de me dire qu'elles sont pas conformes. Putain!
Monsieur, calmez-vous, restez poli.
T'étais en train de me dire là que j'aurais pas mon passeport à temps du coup.
On va trouver une solution.
Putain, mais je vais péter les plombs là. Tu prends ces photos, point.
Monsieur, calmez-vous, rasseyez-vous s'il vous plaît.
T'es vraiment qu'une fonctionnaire à la con, putain. J'en ai pas fini avec toi, espèce de connasse.
L'outrage à l'égard d'un agent chargé d'une mission de service public est puni d'une amende de 7500 euros. Les agents d'Angers-Loire Métropole sont là pour vous. Respectez-les.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, hier, on était avec le Shabada qui nous a parlé de 2 concerts qui arrivent très bientôt. Demain, on sera avec le Fatal Festival, le festival des arts vivants et du théâtre amateur ligérien. Et ce soir, on vous emmène à la découverte des journées du Neurodon 2025. C'est une initiative qui est portée par la Fondation pour la recherche sur le cerveau, la FRC, en partenariat avec l'association Aspeja. Ce sera de ce week-end d'ailleurs, du jeudi 8 mai au dimanche 10 mai. Et à cette occasion, il y aura des jardins privés du Maine-et-Loire qui vont s'ouvrir au public au profit donc de la recherche sur les maladies neurologiques. Et pour en parler ce soir avec nous en studio, on aura Patrick Deromand qui est propriétaire du château de Martreuil, dont le jardin ouvrira pour ces journées du Neurodon. Il est également vice-président de l'association Aspeja. Et on sera également avec Bertrand Cordier, trésorier de l'association. Et ensemble, on parlera de tout ça, de ces lieux, de ces jardins et des journées, évidemment, du Neurodon. Ce soir, on aura aussi La Drôle de Vie de Léona Graal et on écoutera un podcast du Synops. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va écouter un podcast du Graal de l'Histoire.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ce président ne put échapper à son assassinat, mais ce devait être son destin. Si je vous dis 1865, président des États-Unis, vous me dites... Hein ? Appel à un ami? Aide du public? Eh ben non, laissez tomber, on n'a que deux minutes. Il s'agit d'Abraham Lincoln. Oui, je sais, vous le saviez. Bref, lors d'une des sorties du président, un individu força un barrage et tenta de tuer Lincoln. Il fut arrêté, puis relâché, considéré comme inoffensif. Bien vu, cette personne réussira à assassiner sa cible quelques semaines plus tard. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. Nous sommes le vendredi saint. Lincoln a bossé toute la journée. Il est crevé. Réunion sur réunion, toute la journée, un calvaire. Le soir, il pense rester tranquille à chiller devant Netflix. Mais non, il avait une sortie au théâtre de prévu. Autant dire qu'il n'a pas envie, mais alors pas du tout envie de sortir. En plus, il a déjà vu la pièce. En fait, il devait juste y voir le général Grant. Ah, bonne nouvelle, Grant ne peut pas venir. L'école va pouvoir l'arver sur son canapé. C'était sans compter sur sa femme. Elle lui dit, tu dois y aller. Il ne faut pas décevoir le peuple. Contraint, il se rend donc à cette pièce qui lui sera fatale puisqu'il sera assassiné par celui qui l'avait raté quelques semaines auparavant. Une chance pour Grant d'ailleurs qui n'était pas venu, car lui aussi était la cible de cet attentat. Grant lui-même, qui sera président 4 ans plus tard. Comme quoi, les destins. À bientôt pour un nouveau Graal de l'Histoire.
Les podcasts du Graal de l'Histoire que vous pourrez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et nous, on peut tout de suite accueillir nos invités du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais donc en début d'émission, ce soir on va parler des journées du neurodon. Et pour en parler ce soir, on est avec Patrick Deroman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc vice-président de l'association Aspeja et le jardin du château de Martreuil va donc ouvrir pour ces journées-là. Et pour en parler, on est également aussi avec Bertrand Cordier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, trésorier de l'association. Alors peut-être qu'avant de parler de ces journées du neurodon, on peut peut-être donner un petit peu de contexte sur ce qu'est l'association Aspeja. Alors je ne sais pas qui veut en parler, Patrick peut-être ?
Eh bien, l'Aspeja est une association qui regroupe actuellement entre un peu plus de 300 membres qui sont soit des propriétaires de jardins ou de parcs, mais soit simplement des gens qui sont intéressés par les arbres, par la nature, qui sont en fait en majorité dans notre association. C'est une association qui a été créée en 1988 et donc qui va bientôt, dans 3 ans, fêter ses 40 ans.
Et alors, depuis quand vous êtes impliqué personnellement dans cette association, Patrick ?
Bah, je dois être un des plus anciens. J'y suis depuis une douzaine d'années dans le conseil d'administration de l'Aspeja, mais le parc que je représente appartient à l'Aspeja depuis beaucoup plus longtemps. Voilà.
Et Bertrand, vous, ça fait combien de temps ?
Moi, depuis 3 ans, depuis que j'ai quitté la vie active. Donc, nous sommes venus comme retraités en Anjou. Je suis assez actif et comme j'adore les arbres, je me suis mis dans l'Aspeja.
Et alors, quel est l'objectif de cette association au final, Patrick ?
Ben c'est d'une part la protection, la sauvegarde, comme son nom l'indique, Aspeja, association de sauvegarde des parcs et jardins, la sauvegarde des parcs et jardins, mais c'est également une association qui a pour but de faire connaître au grand public ces parcs et jardins et de sensibiliser à tous les effets que les changements climatiques peuvent avoir sur la nature, sur les arbres et sur les jardins. Et puis c'est également une association d'entraide entre les propriétaires de parcs et jardins pour leur permettre de gérer au mieux leur jardin.
C'est un peu une manière aussi peut-être de créer une communauté de passionnés des jardins.
Oui, c'est une communauté très vivante et très dynamique.
Et est-ce que ça permet de transmettre cette culture du jardin aussi à tout et chacun peut-être, Bertrand ?
Oui, tout à fait, ça permet de transmettre, c'est intergénérationnel. On s'aperçoit que ben voilà, les parents y étaient, les enfants y viennent. Et ça permet aussi d'accroître la connaissance, puisqu'il y a de nombreuses visites organisées chaque année pour des parcs et jardins, à la fois en Anjou et en dehors de l'Anjou, à l'étranger et en France. Et donc, ça permet d'améliorer la connaissance aussi bien des arbres, des plantes, avec des échanges de plantes, de temps en temps des fêtes des plantes. Donc c'est très actif, on est de plus en plus actif. Et voilà, on s'aperçoit que le nombre d'adhérents augmente, donc ce qui veut dire que on est vraiment intéressant.
Alors l'association, elle s'adresse peut-être pas au grand domaine, elle s'adresse aussi aux petits jardins privés.
Oui, absolument. On a des jardins de toutes les tailles qui vont du petit jardin de curé avec des buis, avec des petits parterres de fleurs, jusqu'aux grands parcs paysagers qui peuvent faire à peu près 10 ou 15 hectares. Donc, on a des jardins de toutes les tailles et de tous les styles.
Est-ce que vous avez remarqué ces dernières années un regain d'intérêt pour ces jardins ?
Oui, on s'aperçoit qu'après le Covid, effectivement, beaucoup de gens, pendant le Covid, sont restés dans leur maison, ont profité de leur jardin et ont vu les saisons passer. Donc, au niveau de ce qui est plantation, au niveau, ils ont voulu fleurir leur jardin. Et c'est pour ça que l'ASPEJA, de plus en plus, on intègre des visites de pépinières, de spécialistes, de professionnels du verre. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent dans ces visites pour à la fois visiter les installations et acheter des plantes.
Est-ce que la notion d'environnement, de gestion durable de ces espaces verts s'est intégrée depuis très longtemps dans cette association ?
Elle ne s'est pas intégrée depuis très longtemps, mais elle commence à être très très importante parce que le changement climatique est là. Et on a souffert depuis une dizaine d'années, on en parlait tout à l'heure avec Bertrand, d'été terrible pour la nature et pour les arbres, avec des périodes de chaleur et de sécheresse importantes. Et donc là, oui, c'est vraiment quelque chose qui est très présent.
Le but, c'est aussi de sensibiliser à ça, peut-être.
Oui, mais c'est-à-dire que on a un site internet qui s'appelle aspeja.fr et sur lequel on a un forum qu'on essaye de développer de plus en plus, mais où on échange beaucoup de choses à propos notamment des arbres qu'il faut planter. Parce qu'on ne peut plus planter n'importe quel arbre maintenant. Il faut planter des arbres qui vont résister au changement climatique, à la chaleur, à la sécheresse. Donc voilà, on est vraiment très préoccupé par ce problème.
Et alors, en dehors des journées du Neurodon, est-ce que c'est des parcs qui sont ouverts au public à d'autres moments de l'année aussi ?
Alors oui, il y a... trois grandes opérations annuelles nationales, le Neurodon, premier week-end de mai, les rendez-vous au jardin initiés par le ministère de la Culture, premier week-end de juin, et puis souvent les parcs ouvrent pour les journées européennes du patrimoine au mois de septembre, le troisième week-end de septembre.
Et on continuera à parler de tout ça juste après, notamment des journées du Neurodon. Qu'est-ce qu'on pourra y faire? Dans quel château on pourra se rendre? Mais juste avant tout ça, on va faire une petite pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Marianne de Lily Lussa.
Je passe sur mes 20 ans, j'ai acheté un sac à dos. J'ai suivi le vent, j'ai suivi mes rêves d'ado. Mes rêves d'aventure, de rencontres, de paysages. Je couvre de ratures mon carnet de voyage, mon carnet de voyage. C'est beau la jeunesse, cœur curieux, cherche imprévu, cerveau open space, l'avenir à perte de vue. Pas encore 20 berges et j'habite depuis 3 mois. Dans une chambre d'auberge de jeunesse à côté de moi. Il y a le lit de Marianne, ma meilleure copine qui partage mon mal de crâne. Pourquoi tant de whisky? Pourquoi tant de whisky? Bientôt 20 balais et le moral est pas au top. J'arrête pas de râler, personne ne veut nous prendre en stop.
Marianne de Lily Lussa sur le 101.5 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette et on est toujours avec Patrick de Roman et Bertrand Cordier pour parler de l'ASPEJA et donc des journées du Neurodon. Parce que donc ces journées du Neurodon, elles sont portées par la Fondation pour la recherche sur le cerveau, mais elles sont en partenariat avec l'association ASPEJA. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter ces journées du Neurodon, à quoi elles servent, Patrick?
Eh bien, ces journées du Neurodon servent à financer des programmes de recherche sur les maladies du cerveau. Des maladies qui peuvent être des maladies neurologiques, mais aussi des maladies psychiatriques, comme Alzheimer, maladie de Parkinson, épilepsie, etc. Cette année, le Neurodon, qui habituellement a lieu sur un week-end, grâce au pont du 8 mai, on est ouvert sur 4 jours. Donc, le 8, 9, 10 et 11 mai. Voilà, 8, 9, 10, 11 mai.
Et alors, depuis quand l'association Aspeja est impliquée dans ces journées du Neurodon?
Depuis très longtemps.
2003.
Oui.
2003.
Oui.
Et comment est venu ce partenariat? Qu'est-ce qui est amené ces deux associations à collaborer avec FRC?
Eh bien, l'ASPEJA dépend d'un réseau national qui s'appelle le CPJF, le Comité des Parcs et Jardins de France, et c'est lui qui a été en relation avec la Fondation pour la Recherche sur les Maladies du Cerveau, et qui a demandé au jardin qui faisait partie du CPJF de s'associer à ces journées pour financer la recherche sur les maladies du cerveau.
Et alors concrètement, durant ces journées, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des jardins donc qui vont s'ouvrir au public, c'est ça Patrick?
Oui, ce sont des jardins que vous ne voyez pas souvent, qui sont pas tous ouverts toute l'année. Et donc là, c'est un moyen de découvrir des jardins privés qui sont extrêmement bien entretenus, qui sont très beaux. Et c'est une occasion à la fois de faire une bonne action, tout en prenant un plaisir... beaucoup de plaisir à visiter des beaux jardins.
Alors, je crois qu'en Maine-et-Loire, il y en aura 7. Si je me trompe, on peut peut-être en citer quelques-uns, Bertrand.
Très volontiers. Je vais commencer par le Parc de la Cour à Coron, qui sera ouvert à cette occasion. À signaler qu'il y a aussi le Parc et Jardin Potager du Château des Pirées. Pour ceux qui sont à côté, il y a le Château de Jarzé, qui également ouvrira. Et tout ça sont des ouvertures qui sont exceptionnelles pour le Neurodon, le parc du château du Martreuil, donc chez Patrick de Romans, le jardin de la Chêneraie à Saint-James-sur-Loire, et puis également, pour vous en citer encore un, le clos de la Maisonneuve à Saint-Georges-de-Sept-Voies. Donc si vous êtes près de ces parcs, n'hésitez pas à vous y rendre, ils sont ouverts pour vous, ils ont été préparés et entretenus pour vous.
Alors, est-ce qu'on a une idée de chaque année combien de personnes viennent visiter ces parcs pour les journées du Neurodon?
On est très dépendant de la météo. L'année dernière, on a vu une très mauvaise météo et on a été complètement plombé par ce mauvais temps. Mais ça peut aller de 200 personnes à un millier de personnes par jardin. Alors, quand les jardins ouvrent pour la première fois, là, ils attirent énormément de monde parce que l'intérêt est très fort de visiter un jardin qui n'est jamais ouvert habituellement. Et là, vous avez des pépites, là, vraiment. Le jardin de la Chêneraie à Saint-James-sur-Loire, qui est vraiment extraordinaire, qui est un jardin exotique. Le parc de la Cure à Coron, je l'ai visité il y a 2 jours. Exceptionnel. Vous avez des arbres vous avez un tilleul qui a été planté en 1828, qui est peut-être l'arbre le plus grand de France, puisqu'il occupe une superficie de 500 mètres carrés. Donc, on voit vraiment des choses qu'on ne voit jamais habituellement. Donc là, il faut y aller. C'est vraiment un moyen de découvrir des très, très, très belles choses.
C'est ce que j'allais demander justement, est-ce qu'il y a des parcs qui attirent plus que d'autres? Il y en a qui ont beaucoup plus de visiteurs, qui attisent la curiosité parce que ce sont des parcs peut-être qu'on a moins l'habitude de voir en Anjou?
Ça dépend, ça dépend de vos goûts et de vos couleurs. Vous pouvez adorer les arbres, les vieux arbres, vous pouvez adorer la multiplicité des essences que vous pouvez voir, et comme le dit Patrick... Vous avez les jardins qui sont les jardins à tendance orientale, des jardins à tendance avec des arbres chez nous, des jardins avec des arbres exotiques qui viennent d'Amérique, des Amériques qui viennent d'Asie. Et donc là, c'est vraiment chacun. Et puis, vous savez, lorsque vous passez tous les jours le long d'une route et que vous voyez un super parc et que vous avez l'opportunité de pouvoir le visiter, c'est toujours un grand plaisir pour les fans de venir se rendre dans ces parcs et jardins.
Alors, est-ce que sur ce week-end-ci, il y aura peut-être des visites guidées? Est-ce que les propriétaires des parcs seront présents pour un petit peu orienter le public? Ou alors, est-ce que c'est une visite complètement libre et on invite le visiteur à découvrir de lui-même?
Eh bien, je vous répondrai les deux. Les propriétaires sont toujours là, bien sûr. Ils sont très contents d'accueillir des visiteurs. En ce qui me concerne, donc on accueille les visiteurs, on leur fait une présentation du parc, et après ça, ils visitent avec un plan. Et c'est une visite libre. Donc certains restent une heure, d'autres trois heures. Ça dépend complètement de l'intérêt des gens.
Alors, est-ce qu'on arrive à mesurer les retombées de ces journées? Là, ça va être en plus 4 journées. Est-ce qu'on arrive en termes peut-être économiquement? Parce que du coup, on ne l'a pas précisé, mais l'entrée de ces jardins est à 2 euros. Et donc, ces 2 euros serviront pour la recherche, pour le cerveau. Est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact?
Oui, tout à fait. On sait que depuis 2003, on a collecté près de 700 000 euros dans ces opérations neurodons. Et 700 000 euros, ça permet de financer des projets, à savoir qu'un projet neurodon coûte à peu près entre 50 et 80 000 euros. Et donc, vous voyez, on a financé plus de 10 projets. Donc, tout ce qui est financement, ça permet à la science d'avancer. Donc, oui, le neurodon est très, très positif.
Alors, l'entrée n'est pas à 2 euros. L'entrée est fixée par les différents propriétaires de parcs. En général, c'est 5 euros, 7 euros. Mais chaque parc reverse 2 euros pour la maladie, pour la recherche. Sachant qu'on invite également les visiteurs qui le souhaitent à verser plus de 2 euros, évidemment, s'ils le peuvent.
Et quel type de public on accueille durant ces journées? Est-ce que c'est beaucoup de familles?
Beaucoup de familles. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, évidemment les retraités, parce que les retraités visitent beaucoup, beaucoup. C'est un public qui est très dynamique, oui, mais beaucoup de familles.
Et comme le disait Patrick tout à l'heure, lorsque vous visitez, il y a toujours une idée à prendre, voire plusieurs. Mais donc, toute personne qui a un petit espace vert chez lui est... En visitant, on peut se dire, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais le faire. Un arbre près d'une pièce d'eau, un arbre près d'une maison. C'est toujours intéressant de voir la réaction des gens. Les propriétaires sont amoureux de leur parc et vous avez en face de vous des gens qui aussi sont très, très positifs. Donc ça crée des échanges absolument superbes.
Ça permet de découvrir de nouvelles idées pour son jardin, j'imagine.
Oui, on a beaucoup de questions et beaucoup de demandes de conseils, effectivement. Quel arbre faut-il planter en raison du changement climatique ou à quel endroit et comment est-ce qu'on peut associer différentes essences? On a beaucoup, beaucoup de demandes de conseils.
Et en plus de tous ces bienfaits, il y a aussi la nature, justement, qui a beaucoup de bienfaits sur la santé mentale. On continuera à en parler juste après. Mais d'abord, on écoute La drôle de vie de Léona Graal.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Les acteurs de films d'auteur sont tellement méconnus qu'il est presque impossible de les croiser dans les médias. Mais aujourd'hui, l'équipe de La Drôle de Vie a réalisé l'impossible. Nous avons interviewé l'acteur le moins connu du monde.
Notre invité cette semaine, le comédien, metteur en scène, réalisateur, scénariste, charcutier, dentiste, maître nageur et éleveur de mouches en Alaska, mais surtout l'acteur le plus ignoré au monde, notamment méconnu pour ne pas avoir joué dans les plus grands films de cinéma. Monsieur Alain Connu, bonsoir.
Bonsoir. En passant, je préfère que vous m'appeliez par mon nom complet.
Alain Connu, c'est bien votre nom.
Ouais, mais c'est la version courte. Mon nom complet, c'est Alain Connu, Durand, Moreau, Lefebvre, Laurent Petit, Dubois, Morel, Fournier, Bonnet, Dupont, Lambert, Jacquet, Rousseau, Le Grand, Gauthier, Robin, Clément, Nicolas, Roussel, Marchand, Duval, Dumont, Blanchard.
Merci Alain. Alors vous êtes l'acteur dont on n'entend jamais parler.
Tout à fait.
Oh, j'arrive pas à y croire. J'ai l'honneur d'avoir devant moi l'acteur le moins connu du monde.
Merci.
Celui qu'on ne voit jamais à la télé.
Arrêtez, vous me gênez.
Non mais soyez pas modeste. Vous êtes quand même la personne dont tout le monde se fout.
Oh, vous êtes trop gentil.
D'ailleurs, je tenais à vous dire que je n'ai absolument pas vu votre dernier film au cinéma et j'ai adoré.
Merci, ça me touche.
Ça vous dérange si je prends une photo de vos narines en gros plan?
Mais pas du tout. Allez-y.
Super, je vais l'encadrer dans mes toilettes.
Parfait,
merci.
Mais vous savez, je suis une personne totalement banale.
Non, là, je peux pas vous laisser dire ça.
Ah bah écoute...
En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup ce que vous faites.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Non mais je vous assure, je me nourris tous les jours de votre travail.
Par nourrir, vous voulez dire que ça vous inspire?
Non, je veux dire que je mange vos films au petit-déj.
Ah bah écoutez, c'est apprécié.
Alain, ça fait quoi d'être totalement invisible aux yeux des autres?
Oh.
J'imagine que ça doit créer de la jalousie chez certaines personnes, notamment lorsque vous ne vous faites pas reconnaître dans la rue, par exemple.
Ah, ça, c'est le plus insupportable.
C'est vrai.
Mais à force de se faire ignorer, on finit par s'y habituer.
Ouais.
En faisant ce métier, on est obligé de s'y préparer.
Et est-ce que vous connaissez personnellement d'autres gens pas connus comme vous ?
Bien sûr, j'en connais plein.
Qui ça ? Dites-nous, on veut savoir.
Par exemple, mon cousin.
Oh !
Ou encore la poissonnière de la rue Velpeau.
Incroyable !
Je pourrais en citer tellement d'autres. Comment fait-on pour devenir méconnu ?
Oh, c'est très simple. Vous savez, quand j'étais petit, ma mère ne croyait vraiment pas en moi.
Mm-hmm.
Mais mon père, lui, m'a toujours soutenu.
Ou d'ailleurs, je pense que maintenant, il peut vous lâcher.
Non, attends, papa !
En attendant que vous vous relevez, on écoute un flashback de votre enfance pour illustrer vos propos.
Alors comme ça, fiston, tu veux devenir un acteur méconnu ?
C'est n'importe quoi, Alain, tu n'y arriveras jamais !
Un jour, je finirai par percer, vous verrez !
Tu as raison, mon fils, il faut persévérer !
Et même pas une semaine plus tard, je me suis mis à percer des trous dans ma chambre.
Oh, c'est tellement émouvant !
Ouais, j'étais sûr que j'allais percer. C'est super que votre père vous ait encouragé. Oui, on peut dire qu'il m'a vraiment porté malchance. On va maintenant visionner un extrait de votre dernier film qui s'appelle... Un soir pluvieux du mois de novembre. Putain, rien que le nom, ça a pas du tout l'air chiant à mourir. Non, vous allez voir, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'action. On regarde ça de suite.
Le mois de novembre.
Voilà, donc c'est un extrait de votre nouveau film,
voilà.
Et vous jouez le rôle du gars qui regarde par la fenêtre, c'est ça ?
Non, moi je suis celui qui marche en arrière-plan, je sais pas si vous avez vu.
Pas du tout, mais vous avez quand même gagné un prix pour ce film, je crois.
Oui, j'ai obtenu le César du meilleur acteur qui marche dehors sous la pluie dans un film d'auteur dans la catégorie dissimulation masculine.
Alain, cette interview touche à sa fin et je ne voudrais pas prendre trop de votre temps.
Oui,
je sais que en tant que star, vous devez être débordé.
Oh, c'est rien de le dire, hein. Je suis tellement débordé que tous les soirs quand je me couche, ma femme est obligée de me reborder.
En tout cas, merci de nous avoir accordé votre guitare électrique.
Au plaisir.
La drôle de vie.
La drôle de vie de Léona Gral à retrouver dans 2 semaines sur Topette. Et nous, on est toujours avec Patrick de Roman et Bertrand Cordier pour parler donc des journées du Neurodon. Et d'ailleurs, si on continue à parler plutôt de l'association Aspeja, donc son rôle, elle participe pas seulement aux journées du Neurodon, elle accueille aussi régulièrement un public scolaire, c'est ça Patrick ?
Oui, alors c'est pas l'Aspeja, c'est moi personnellement en tant que propriétaire de parc, on n'est pas ouvert simplement pour le Neurodon, mais on est ouvert tous les week-ends du 1er avril au 31 octobre et à la demande également pour les groupes et notamment pour les scolaires et pour les personnes en difficulté, notamment pour les personnes handicapées.
Et alors, le public scolaire, est-ce que ce sont des personnes qui sont très sensibles à tout ce qui est nature, jardin, qui adorent découvrir ?
Absolument incroyable. Ils sont très sensibilisés et certains ont des connaissances, mais absolument étonnantes. Et ils sont très motivés et quand ils viennent visiter avec leur école, en général, on fait de la recherche d'indices, c'est-à-dire des plumes, des empreintes d'animaux dans le sol, ils sont vraiment très 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 motivés, mais ils travaillent en amont avec leur professeur qui les prépare toute l'année sur un thème en relation avec par exemple la nature ou le changement climatique.
Et alors hors antenne tout à l'heure on en parlait, mais vous accueillez aussi de temps en temps des personnes en situation de handicap et vous disiez qu'elles étaient fascinées par ce monde de la nature.
Oui, et Bertrand le disait tout à l'heure, le vert apaise, et c'est reconnu scientifiquement, et les personnes qui se trouvent dans la nature sont complètement apaisées. Nous, on a eu le cas de personnes handicapées mentales qui étaient très agitées, et on a un étang qui est dans un bois, et arrivé à l'étang, les personnes se calment instantanément et écoutent et regardent. Et c'est vraiment très important. Moi, j'adore ce public d'handicapés mentaux. Ce sont des gens très attachants.
Bertrand, c'est quelque chose que vous remarquez, l'apaisement qu'ont parfois ces jardins sur finalement toute personne, peu importe.
Oui, c'est incroyable. Et souvenons-nous tous, il y a 2-3 ans, on a traversé le Covid. Et le Covid, vous aviez vraiment une différence entre les gens qui étaient reclus dans les villes et les gens qui avaient la chance de pouvoir être à la campagne et de profiter d'un espace vert. Ceux qui étaient à la campagne avec un espace vert étaient en famille, donc c'était le moment d'apprendre aux enfants à planter un petit haricot, à planter un pied de tomate. Et donc là, comme le disait Patrick, c'est un éveil à la nature, et aujourd'hui on le voit très bien, d'où l'expression française « se mettre au vert ». C'est pas pour rien. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés par la vie citadine, par la vie professionnelle, et dès qu'ils le peuvent, hop, en week-end, ils viennent se mettre au vert pour se balader dans la nature et s'apaiser. Il y a des recherches scientifiques qui ont été faites à la fois aux États-Unis et en Europe qui démontrent que en contact avec la nature, en contact avec les arbres, avec le bruit des feuilles, ne serait-ce que de voir un écureuil passer d'arbre en arbre, bah, vous psychiquement, vous vous relâchez et vous vous relaxez. Et donc, le vert, oui, contribue au déstress.
Et c'est presque une nécessité, parce qu'en ville, on voit, il y a de plus en plus de parcs, de vert aussi. C'est quelque chose qui est nécessaire, qu'on soit citadin ou qu'on habite à la campagne.
Oui, 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 indéniablement. Et toutes les études, regardez, même à Paris, la politique qui était faite par Anne Hidalgo. Aujourd'hui, toutes les rues, les parcs, dès qu'on peut mettre des arbres quelque part, on les met. Et il a été démontré, il y a une étude qui a été faite à New York, où vous aviez deux places, une sans arbres et une arborée. La place arborée avait 10 degrés de moins en été que la place non arborée. Donc, toutes les villes vont y venir, même les villages vont y venir. Et donc, on ne verra plus de grands espaces, de grandes places cimentées ou goudronnées. Les gens vont revenir à ce que la nature était avant pour se protéger de la chaleur.
Et à Angers, on a la chance d'avoir des parcs absolument extraordinaires. D'abord, on est une des villes les plus vertes de France. Mais allez vous promener au Jardin des Plantes, c'est une merveille. Vous avez des arbres remarquables, d'une beauté magnifique. Et allez à l'Arboretum Gaston Allard. Ça, c'est un parc de vraiment très, très, très beau. Et c'est un conservatoire d'arbres et de nature.
La nature, elle est essentielle pour notre santé mentale, mais aussi physique, certainement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Patrick et Bertrand, pour ces journées du Neurodon? Beaucoup de soleil pour l'ouverture de ces jardins?
Beaucoup de soleil, c'est important, parce que le soleil fait bouger les gens.
Oui, et puis beaucoup de visiteurs, pour leur plaisir propre et pour le plaisir des parcs qui sont ouverts, parce que ce sera vraiment une fête de la nature. Et on contribuera directement au Neurodon.
Et d'ailleurs, c'est bientôt la fin pour Topette. On peut peut-être rappeler où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pratiques. Peut-être qu'il y a un site internet du Neurodon, l'adresse des châteaux, tout ça, où est-ce qu'on retrouve?
Vous avez le site du Neurodon et surtout, vous avez aspeja.fr, comme le disait Patrick. Vous y allez, vous tapez Aspeja Neurodon 2025 et vous avez l'adresse des 7 parcs et jardins ouverts du 8 au 11 mai.
Et alors, si on veut adhérer à l'association Aspeja, comment ça se passe, Patrick?
Eh bien, ça se passe toujours par l'intermédiaire du site web. Vous avez la possibilité d'adhérer à travers le site web.
Merci beaucoup Patrick et Bertrand d'être passés dans Topette pour nous présenter l'Aspeja et ses journées du Neurodon. On donne donc rendez-vous à tous nos auditeurs le 8 mai dans des jardins du Maine-et-Loire à découvrir tout cela pour la très bonne cause du coup évidemment. Nous demain on sera avec le Fatal Festival et ce soir on se quitte avec un épisode du Synops.
Le Synops, la splendeur du cinéma d'auteur, avec Mathis et Emilien.
Bienvenue à vous, ce mercredi 4 décembre à 20h au cinéma d'art et d'essai d'Angers, les 400 coups, nous avons visionné le dernier long métrage d'Edouard Berger, Conclave. Ce thriller intrigant, inspiré du roman éponyme de Robert Harris, explore les crises de confiance, les rapports de pouvoir, ainsi que les conflits idéologiques au sein même de la Maison de Dieu, dans un contexte où la question des couples homosexuels, les questions de genre et les accusations d'abus relatifs à ces sujets forment la Sainte Trinité des grandes dissensions de l'Église catholique. À travers ce podcast du Synops, découvrez notre lecture critique sur le film Conclave, qui nous plonge dans les coulisses de l'élection du nouveau pape. Pour ce faire, un casting armé est proposé par Nina Gold. On retrouve Ralph Fiennes dans le rôle du cardinal Lawrence, Carlos Díez pour le rôle du cardinal Benitez, ou encore Stanley Tucci interprétant le cardinal Bellini, et enfin John Lithgow pour le cardinal Tremblay. Ces informations, vous pourrez comme d'habitude les retrouver sur le site des 400 coups. Emilien, je te laisse désormais la place pour le synopsis.
Vera papa mortus est. La traduction, le pape est vraiment mort. D'une crise cardiaque foudroyante, le souverain pontife emporte avec lui de nombreux mystères. Qu'importe. Pour l'heure, la curie romaine s'affaire à organiser le conclave qui élira le prochain pape. Le cardinal Lawrence est chargé de mettre en place l'élection. Réticent au départ à superviser cette tâche complexe, il répond tout de même à ses obligations. Jonglant alors entre toutes les machinations politiques, défaisant les stratégies qui viendraient satisfaire les ambitions perverses de certains aux idéologies les plus réfractaires, l'intérêt de protéger le visage de l'Église catholique, jusqu'à lever le voile sur le secret qui viendra chambouler cette élection quasi divine. Les portes massives de la chapelle Sixtine se referment, le monde tourne son regard vers la cheminée à la fumée blanche ou noire. Quel est donc l'homme qui deviendra le successeur de Saint-Pierre ?
Alors tout d'abord, Conclave, avant d'être un récit profondément dénonciateur d'une église catholique au bord des conflits idéologiques et des crises très contemporaines, c'est avant tout une claque visuelle. Pour ce faire, colorimétrie ponctuée d'obscurité et d'éclats de rouge, accompagnée d'une palette de noir, blanc et gris qui exprime une structure rigide de l'église. Ces coloris sont mis en scène ici à travers d'une part des couloirs sombres et des salles majestueuses, mais aussi par les personnages qui, dans la forme visuelle de leurs émotions, se rapprochent à mon sens à celles des Corleone dans Le Parrain de Coppola ou encore aux habitudes sensibles transmises par De Niro dans Casino.
Quel changement d'ambiance lorsque l'on passe de l'enfer des tranchées de 14-18 où les explosions d'obus, le son à répétition des mitrailleuses et les cris d'assaut à la baïonnette crispent le spectateur tellement à l'ouest rien de nouveau dépeint avec précision et sincérité l'horreur de la Grande Guerre. Edward Berger a cette fois-ci changé son fusil d'épaule. Visiblement, l'épais mystère de la politique du Vatican aura capté son attention. Conclave est presque aussi haletant, à mon sens, que son dernier long-métrage. Rien de comparable, certes, mais tout de même, il y a dans ce long-métrage une impression mystique où le poids de conscience est accablant. À voir ces hommes qui ont dédié leur existence à Dieu, s'emmurer pendant un temps incertain pour confier à un seul individu jusqu'à sa mort la directive d'une seule croyance. C'est une tâche qui paraît presque finalement transcendante. Là-dessus, Berger a dépeint avec grande finesse d'un côté la portée liturgique de cette élection et dans la même visée la bassesse d'esprit dont fait preuve l'homme lorsqu'il doit choisir le prochain souverain pontife.
Dans mon cas, j'ai trouvé qu'Edward Berger, à contrario du reste de sa filmographie, s'adresse avec Conclave à un public religieux. Bien qu'il s'agisse d'un film réussi techniquement et visuellement, il met ici en évidence un contexte très peu exploré et assez méconnu des habitudes collectives en rendant un film religieux très politique et anachronique, où il n'y a pas d'internet, pas de smartphone et pas de moyens de communication modernes. Et surtout d'un film qui illustre le progrès et la tradition au sein de l'Église pendant 2 heures. En bref, c'est un film avec une ambiance très solennelle, portant sur des sujets casse-gueule, épineux et qui peuvent devenir très sensibles pour certains. Surtout qu'Edward Berger s'arrête pas ici et donne à ce film une ambiance très psychologique, portant l'œil sur le conspirationnisme des différents cardinaux et leur stratégie pour aboutir à leurs propres intérêts.
Personnellement, j'ai toujours été intrigué par les rouages du Vatican. Cet entremêlement entre la chose politique et religieuse est, je trouve, tout bonnement passionnante car elle est paradoxale. À ce titre, 2 ouvrages cinématographiques ont quelque peu sculpté cette vision. Il s'agit de la série The Young Pope et The New Pope de Paolo Sorrentino. Je vous les recommande vivement, puisque Conclave y faisait grandement écho. Tout d'abord, dans un sens plus cinématographique, où le film a été tourné dans les mêmes studios romains, c'est la Cinecittà. Le décor grandiose de la chapelle Sixtine vient de là-bas, justement. Ces décors sont reproduits presque à l'identique. Ça rajoute véritablement une crédibilité et un réalisme à ce long métrage. Et puis, maintenant, dans le fond de l'histoire, j'ai pu aussi trouver une correspondance avec ce questionnement sur le dogme chrétien transmis par le Vatican, où l'idée est de faire paraître pour faire croire. Plus précisément, il y a un jeu politique malsain dans cette élection qui se veut providentielle. Les cardinaux vont s'enfermer et se couper du monde afin de laisser leur esprit au théologisme dans une pureté qui les guiderait divinement vers un homme à la hauteur de la tâche. Pourtant, Edward Berger retranscrit tout le contraire, où la curie romaine s'abaisse à des calculs politiques machiavéliques dans l'optique derrière d'obtenir les bonnes grâces de celui qu'ils éliront pape. En fin de compte, se détachant absolument de leur rôle initial qui est d'être guidé par la voie divine.
Je pense que d'un côté, Conclave, tout est parfaitement codifié, que les complots et les révélations tombent une par une. Néanmoins, le spectateur s'y prépare, tout au moins a le temps de s'y préparer. Mais ces 10 dernières minutes, Edward Berger nous pond un twist qui, en filigrane, est prévisible, certes, mais surtout diablement culotté et très provocateur dans un contexte comme celui-ci, alimentant de rudes débats. Néanmoins, je pense qu'il est impossible de reprocher au film quoi que ce soit à niveau formel, tout au moins pas à mon expertise, ni à son casting terriblement efficace avec un Ralph Fiennes, leader et impérieux aux manettes du Vatican.
Vous l'aurez compris donc, le message de Conclave est avant tout politique. Premièrement, en dépeignant la puissance liturgique d'une élection qui touche à la Providence. Mais d'autre part, vient dénoncer le jeu politique sans scrupules des cardinaux voulant élire celui qui satisferait leur ambition. Ce sont les deux grands éclairages que porte Berger. Cependant, un point n'est pas réellement mis en lumière. C'est celui de l'homosexualité et surtout de la question des scandales sexuels auxquels l'Église fait face depuis des années. Les rapports comme celui de la commission Sauvé en 2021 relataient des faits accablants d'abus, de pédophilie et d'agression dans plus de 14 pays entre 1950 et 2021. Voici l'affaire du cardinal Barbarin en 2016 qui avait masqué pendant des années les agissements pédophiles d'un prêtre. Tous ces graves scandales viennent affaiblir durablement la crédibilité et la pureté céleste que le catholicisme pourtant cherche à illustrer. Dans Conclave, l'accent est plutôt mis maladroitement, à mon sens, sur la rivalité entre le catholicisme réfractaire et l'islamisme radical. Je ne vous partage pas la scène qui appuie mon propos car ce serait un grave cas de spoil. Toujours est-il que ce point n'est pas représentatif aujourd'hui des principales préoccupations du catholicisme. Je peux bien comprendre que 2h05 ne donne pas la possibilité de pouvoir traiter avec profondeur des sujets aussi sensibles, mais tout de même, ce genre de points ne peuvent pas être ignorés lorsque l'on doit parler de l'Église catholique de nos jours. Le film « L'enlèvement » de Marco Bellocchio, sorti l'année dernière, justement, y faisait crûment référence, portant à l'écran ces importantes questions des dérives sexuelles au sein de l'Église. Et c'est ici que, dans un contexte de dissension profonde au sein de l'Église, entre abus sexuels, rapports de pouvoir politique et stratégie conspirationniste, que le film Conclave fait réfléchir et ouvre au débat sur la fidélité aveugle et impassible des catholiques contemporains, mais aussi de son attractivité.
C'est la fin de notre podcast et de notre analyse pour le moins ecclésiastique sur le film Conclave, signé de l'allemand Eduard Berger. On vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous attend également, comme d'habitude, pour notre prochain numéro. Je le rappelle, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram, @lesynopses, tout attaché. Jusqu'ici, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.
Tout de suite, un podcast Radio G.
Le Synopse, la splendeur du cinéma d'auteur avec Mathis et Emilien.
Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous dans notre nouveau podcast Le Synopse sur le film Parthénopée de Paolo Sorrentino. Nous sommes allés voir ce long métrage le jeudi 13 mars à 21h, comme d'habitude au cinéma d'Arrêt et c'est danger des 400 coups. En quelques mots, avant que Matisse ne nous donne le synopsis, ce tout dernier film du réalisateur napolitain, puisqu'il ne se considère italien, aborde dans une immense mélancolie le rapport au temps et à la vieillesse, à travers le prisme d'une jeune femme à la beauté incomparable, incarnant avec finesse et sensualité le visage de la ville de Naples. Au casting, nous retrouvons Céleste Dalla Porta pour Parthénopée, Stefania Sandrelli dans le rôle de la Parthénopée mais version âgée, Gary Oldman en tant que l'écrivain américain John Cheever et enfin Silvio Orlando pour Devoto Marotta, le professeur d'anthropologie. Ce film est en salle aux 400 coups jusqu'au samedi 29 mars, dernière séance à 13h15. Mathis, c'est à toi pour le synopsis.
Parthénopée, le récit d'une épopée féminine, plus exactement d'une sirène dépourvue d'héroïsme et éponyme antique de la ville de Naples qui se voit reprise de liberté après un parfait été à Capri, entourée d'une jeunesse insouciante qui lui fait voir d'autres horizons que des mondanités auxquelles elle est familière. Autour d'elle, les Napolitains, scrutés, aimés, désillusionnés et pleins de vie que l'on suit leurs dérives mélancoliques, leur ironie tragique et leurs moments de découragement. Ici, la vie peut être longue, mémorable ou ordinaire.
Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.